Alors, on va continuer en fait aujourd'hui sur la lancée qu'on avait avec les thèmes qu'on a abordés depuis 2 semaines maintenant. On a commencé avec le temple. Le thème général c'est l'église. On a commencé avec le temple. On a continué avec la vigne. Et ce soir c'est à moi. Et on va faire ça sur le corps. Et je vous invite à écouter les messages qui sont régulièrement mis sur le groupe de jeunes. Et si vous n'avez pas été là les précédentes fois, pour savoir un petit peu ce qu'il en est, et parfois j'aurai l'occasion de faire référence à certains anciens messages, donc à chaque fois je vous invite à faire référence au site en question. Donc ce soir, comme je vous le disais, on va regarder le corps. En fait, Paul, on va lire un texte juste après qu'il a écrit, et il compare l'église à un corps. Alors c'est bien beau tout ça, mais nous on a un corps. Pourquoi un groupement de personnes serait un corps? Déjà une première question. En fait, on va essayer de comprendre pourquoi Dieu a choisi le corps pour pouvoir expliquer ce que c'est que l'Église. Et il y a beaucoup de notions qui vont être clés et que je vais vous présenter ce soir qui expliquent justement ce que c'est que le corps et pourquoi Dieu a choisi d'utiliser le corps pour pouvoir expliquer ce que c'est. Alors lisons ensemble. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ok, ça c'est le premier texte qu'on va voir ensemble. Il y en a beaucoup que Paul a écrit, et il a fait plusieurs lettres justement, notamment aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Romains, et puis là on lit celle qui est aux Corinthiens, où il exprime cette idée du corps. Alors, en fait, c'est étonnant parce qu'il y a des études qui ont été faites assez récemment en sociologie, et ces études-là, elles sont portées en fait sur les groupes et sur comment fonctionnaient les groupes. Et il s'est avéré que les sociologues, donc les scientifiques qui étudient la société et tout ce qu'il y a autour, ont découvert que les groupes fonctionnaient comme des corps. Bon, bah Paul, il avait 2000 ans d'avance, mais c'est pas grave. Donc ils ont découvert que justement les groupes s'organisaient et se spécialisaient. Pourquoi ils se spécialisaient? Parce que justement, il y en avait qui avaient des capacités spécifiques, qui avaient des potentiels spécifiques, et ils les exprimaient de cette manière-là. Ils les exprimaient pour que dans le groupe, ils puissent servir le groupe. Et c'est ça aussi, quand on regarde le corps humain, ben la main, elle a pas la même fonction que le pied, et on voit bien que la main, elle est spécialisée pour faire des choses peut-être plus minutieuses, alors que le pied, qui est beaucoup plus grand, permet de supporter l'ensemble du corps. Ça, c'en est un exemple, et justement, c'est là que ça, il y a une spécialisation en fait de chacune des parties. Mais avant de regarder un peu plus loin sur ce que Paul a exprimé et d'essayer de comprendre justement et de savoir comment appliquer ça dans notre vie, on va regarder ensemble une vidéo parce que c'est une vidéo qui a été faite lors des DNJ. Je pense que vous en rappelez déjà. C'était celle sur la vision que Dieu avait donnée à Ézéchiel, qu'il se retrouvait dans une vallée d'ossements desséchés. Et on va regarder cette vidéo-là, et je vais vous expliquer après pourquoi j'avais choisi ce texte-là pour parler de l'Église.
La main de l'Éternel fut sur moi, et son esprit me transporta dans une grande vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, et voici, ils étaient très nombreux et complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os et dis-leur, « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici, je vais faire entrer en vous un souffle de vie, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Pendant que je parlais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Des nerfs et de la chair se formèrent sur eux, et de la peau les recouvrit. Et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. très nombreuses.
Là, on voit bien les effets spéciaux, c'est super. Pourquoi je vous montre tout ça? Parce que justement, j'ai envie de... On va poursuivre sur le prochain texte. Voilà. On va revenir un petit peu plus en détail sur cette vision-là que Dieu a donnée à Ézéchiel, parce qu'elle va nous servir à comprendre un petit peu comment l'Église aujourd'hui, elle peut être, et ce à quoi elle est aussi appelée à devenir. Lisons, alors... j'ai choisi justement de vous montrer la vidéo d'abord pour que vous ayez une petite aperçu et pour mémoriser un petit peu le texte, mais on va le regarder un petit peu pas à pas. C'est pour ça que je vais m'arrêter assez régulièrement dans ce qu'on va lire, mais on va lire l'ensemble de, enfin une bonne partie déjà de ce que Dieu avait donné à Ézéchiel à ce moment-là. Alors, le Seigneur m'a saisi avec puissance, son esprit m'a emmené, et je me suis trouvé dans une vallée remplie d'os. Le Seigneur me fait le tour de l'endroit. Les os sont très nombreux et complètement secs. Alors, d'autres versions disent « sont desséchés ». Je m'arrête là-dessus parce que j'aimerais poser une question à chacun d'entre nous, et c'est à Dieu aussi de nous sonder par rapport à ça. C'est à nous de faire ce choix, de demander à Dieu cela. Est-ce qu'on a dans nos vies des choses qui sont un petit peu desséchées? Est-ce qu'il y a dans nos vies des choses qui, alors qu'elles pourraient fonctionner d'une bonne manière, est-ce qu'il y a des choses qui sont desséchées dans notre vie et qui font qu'aujourd'hui notre corps ne fonctionne pas bien? Pourquoi je m'adresse à vous directement? Parce que vous tous qui faites partie du corps de Christ et qui constituez l'Église, si chacune des parties qui le constituent est desséchée, comment est-ce que le corps de Christ va pouvoir avancer? Ça va être une question qu'on va se poser ce soir. Et je pense que c'est vraiment important de se laisser sonder par Dieu pour ça. On ne peut pas se dire finalement, là j'ai une bonne semaine, donc ça va. Non. Il y a des choses qui sont bien profondes parfois, qui sont là, qui ça peut être des blessures passées, ça peut être des choses qu'on n'a pas pardonnées, des liens avec notre famille, des liens avec des choses qu'on nous a pu dire et qui nous bloquent et qui font qu'aujourd'hui, notre vie, elle n'est pas forcément au plein potentiel de ce qu'elle pourrait être. Parce que c'est ça, en fait, que Dieu veut faire dans notre vie. Continuons juste. Alors, voici ce que le Seigneur Dieu vous dit. Je vais faire venir en vous un souffle de vie et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair et je vais vous couvrir de peau. Je vais m'arrêter en particulier là, sur ces points-là un petit peu plus tard. Et regardez bien la progression. Au début, on parle des os qui sont là, qui sont dans la vallée. Il y a plein de choses. Et par étapes, il dit, voilà, au final, il va me faire venir un souffle de vie. Mais pour ça, il va devoir d'abord mettre des nerfs, puis il fera pousser de la chair, puis il couvrira de peau. Il y a une étape, en fait. On ne peut pas faire les choses comme ça en se disant, bah tiens, on va avoir les os desséchés, puis on va mettre la chair, et puis tout va bien. Non, c'est fait par étapes. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi après. Et ensuite, on n'avait pas tout lu. Je mettrai en vous un souffle de vie et vous vivrez. Alors vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Je dis ces paroles de la part du Seigneur, comme il me l'a commandé. Pendant que je parle, j'entends un grand bruit, celui d'objets qui remuent. Les os se rapprochent les uns des autres. Donc rien que Ézéchiel là, qui proclame et il voit les choses arriver. On continue. Je regarde, il y a sur eux des nerfs, de la chair pousse, la peau les recouvre. Donc comme ça a été dit, voilà ce qui s'accomplit. Mais il n'y a pas de souffle de vie en eux. Alors le Seigneur me dit, toi qui n'es qu'un homme, parle au souffle de vie de ma part, parle-lui ainsi. Souffle de vie, voici ce que le Seigneur Dieu te dit. Viens du nord, viens du sud, de l'est et de l'ouest, souffle sur ces morts et ils vivront. En fait, il y a beau avoir le corps qui est complet, s'il n'y a pas l'esprit, parce que le souffle de vie, en fait, ça correspond à l'esprit, il n'y a rien qui se passe. Ça, on va y revenir aussi un petit peu plus tard. Je choisis volontairement de reprendre le texte par étape. Alors, gardez bien ça en tête. C'est ça, là, le pourquoi je reviendrai après par la suite. Et pour finir, Je dis ces paroles de la part du Seigneur comme il me l'a commandé. Alors le souffle de vie entre dans les morts et ils reçoivent la vie. Ils se tiennent debout, c'est une armée immense. Ensuite le Seigneur me dit, toi l'homme écoute, ces os représentent tout le peuple d'Israël. Alors, il y a une autre traduction en fait qui avait été parfois donnée dans le peuple, tout le peuple d'Israël, c'est la communauté d'Israël. En fait la communauté d'Israël ça représente quoi? Ça représente tout simplement l'Église. Donc en fait, cette vision-là, qui peut paraître assez, assez rustique, même assez, assez barbare, parce qu'on se dit qu'il y a plein de cadavres partout, il y a Ézéchiel qui arrive, il est embarqué là-dedans, il ne sait pas ce qui se passe, il arrive, il est face à un champ de squelettes, et puis c'est digne d'un bon film d'horreur, ou d'un film là, qui peut faire un peu peur, mais en tout cas, voilà ce qui se passe. Et à qui ça s'adresse? À l'Église. En fait, ce que je veux voir avec vous concernant le corps et l'Église, c'est qu'il va y avoir plusieurs étapes pour que l'Église entre en croissance. Vous savez qu'un corps, un bébé, quand lui il se développe, il va grandir et puis il y a toute une partie de croissance. Et l'Église est appelée à grandir. Mais avant que l'Église grandisse, est-ce que tu peux la suite ? Avant que l'Église grandisse, il y a plusieurs étapes qui sont nécessaires. Donc on va voir au début trois critères essentiels pour vivre une église restaurée. Donc parce qu'il y a besoin de restauration, peut-être si certains os sont desséchés, on est appelé à avoir des choses qui soient restaurées en nous et dans l'église. On va voir aussi une deuxième partie, une église de disciples vivant dans l'unité. Et puis la troisième partie, je ne pense pas que je vais avoir le temps de l'aborder ce soir, mais peut-être que j'aurai l'occasion à un autre moment, une église conduite par l'esprit où chacun est à sa place. Ça c'est les étapes de la croissance de l'église, c'est ce que l'Église est appelée à vivre et appelée à faire alors qu'elle se fonde en Christ et qu'on avance dans cette direction. Donc, comme je vous le disais, pour cette étape de croissance, quand on regarde un bébé et qu'on considère que, alors que Paul parle de l'Église et du corps et qu'il dit que la tête, c'est Christ. Si vous avez un corps, une tête qui est bien formée, c'est-à-dire Christ, mais un corps qui ressemble à un bébé, je pense que ça va faire un petit peu peur. Est-ce que vous avez déjà vu une tête d'adulte dans un corps de bébé? Vous avez déjà vu ça? Vous avez vu ça? Ouais, ça fait peur. Non? Tranquille? Mais moi je trouve que justement ça peut poser question, parce que si la tête elle est bien faite, parce que Christ, il est déjà parfait, il a déjà tout accompli. Si on est dans un corps d'enfant, un corps de bébé, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ce qu'on est appelé à vivre? Je crois pas. Là, ce qu'on est appelé à vivre, c'est justement une phase de croissance. Et cette phase de croissance-là, il faut que chacun de nous puisse la vivre. Et c'est ça, ce sur quoi on va s'intéresser ce soir. Un bébé, lui, il n'est pas autonome. Quand vous regardez, il a besoin de ses parents, parce que lui, ses parents le nourrissent, ses parents le changent, ses parents lui donnent tout ce dont il a besoin. Et puis, au fur et à mesure qu'il croit, il reçoit d'autres aliments, il reçoit d'autres choses qui font qu'il va continuer à grandir. Bien, avec l'Église, c'est la même chose. Va falloir qu'on vive les choses par étapes. Et peut-être dans notre vie, justement, on est encore à l'état de bébé. Quand Paul il parle du lait qu'il donne, parfois on est obligé de recevoir simplement des choses toutes petites, mais après on est aussi appelé à grandir. Et alors que nous, on est jeunes, on est tous jeunes, ok, mais on est appelé à grandir, on est appelé à développer notre vie, à choisir nos études, à choisir notre vie future, que ce soit dans le cadre de sentimental, que ce soit dans le cadre professionnel, quel qu'il soit, on est appelé à se développer. Mais on est aussi appelé à se développer avec Dieu. Parce que si on reste bébé avec Dieu, ce sera un bébé dans un corps, dans une tête, avec une tête d'adulte. Et ça fera faire bizarre. Alors, regardons ce premier point, les trois critères essentiels pour une église restaurée. Alors, je vais reprendre les étapes un petit peu qui ont été décrites dans la vision d'Ézéchiel et qui vont nous permettre de bien comprendre ce que Dieu veut d'essentiel pour l'Église. Donc, premier point, on va voir que les os représentent la structure de l'Église, l'organisation définie par la vérité, la parole de Dieu. Ensuite, on verra ensemble que les nerfs représentent l'obéissance de l'Église, et ensuite que le sang et la chair représentent l'amour dans l'Église. Alors, ça peut faire des raccourcis, vous n'allez peut-être pas forcément comprendre l'un à coup, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Donc, regardons déjà le premier point. Les os qui représentent la structure de l'Église, son organisation, et qui est définie justement par la vérité. En fait, quand on regarde comment étaient dispersés les os, ils étaient loin les uns des autres. Et ils étaient appelés d'abord à se rapprocher pour être bien organisés, pour être bien structurés. Mais comment cela se peut ? En fait, si les os sont dispersés, et quand on regarde quand ils sont dispersés, il n'y a rien. On ne peut même pas articuler les uns avec les autres. Par contre, lorsqu'on rapproche l'ensemble, on voit qu'il y a un squelette qui se forme. Est-ce que tu veux bien... Ouais. Ah, j'ai pris ça, vous avez un squelette. Je ne vais pas vous faire le descriptif de toutes les parties des os. De toute façon, je n'y connais pas grand-chose là. Mais quand vous voyez le squelette, là, il tient bien tout droit. Okay, vous avez peut-être déjà vu ça quand vous étiez plus jeune en cours des étés. Vous êtes peut-être là-dedans avec le beau squelette. Là, c'est super chouette. Mais comment ça se peut ? Qu'est-ce qui va nous permettre de dire que ces os peuvent représenter la structure ? En fait, c'est tout simple. Quand on voit là l'ensemble, tout ça là, c'est bien agencé, c'est bien structuré. Imaginez un petit peu là, la main à la place du pied. Ça peut passer encore. Mais imaginez un petit peu tout le bassin là, à la place de la tête. Ce serait cool, hein ? Ça ferait bizarre. Mais ce serait original. Et ben là, on a besoin... Pourquoi ? Du coup, on a besoin de la parole de Dieu, c'est parce que le bassin, il doit être là, il ne peut pas être là. L'os là, du bras, il ne peut pas être à la place de l'os de la jambe, le fémur, là. Il ne peut pas être là. Parce que sinon, ben, ça va, le squelette, il va être un petit peu comme ça, parce que là, l'avant-bras, là, il est plus court, ça va se casser, il ne va pas être bien organisé. Mais où est-ce qu'on va voir qu'une église elle peut être bien organisée ? Sur quoi on se base, nous, en tant que chrétiens, pour que l'église soit bien organisée, sinon la parole de Dieu ? Donc c'est ça, en fait. Le squelette, toute la structure, elle représente la parole de Dieu et le fait d'être bien ancré dans la parole de Dieu. Ok ? Mets le verset. Ça, c'était en lien avec... on l'avait déjà lu ensemble, mais c'était pour vous rappeler. Ce que je veux dire par là, et pourquoi Paul parle de squelette, pourquoi Paul parle de corps, c'est parce que quand il écrit aux églises, aux différentes églises, notamment à l'église de Corinthe et à l'église d'Éphèse, en fait, il a fondé les églises, puis après il est parti. Et quand il est parti, il y a d'autres personnes qui sont venues dans l'église. Et parce qu'il y avait un bon petit mouvement de foule, il y avait des personnes, ces personnes-là ont propagé des idées, ont propagé des choses qui n'étaient pas du tout la volonté de Dieu, qui étaient en dehors de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que, du coup, Paul a dû faire ? Il a dû remettre droit toutes ces choses-là, il a dû restructurer tout ça en écrivant ses lettres. Et il a dû se battre face à certaines pensées, certaines manières de faire les choses qui n'étaient pas du tout selon ce que Dieu, le plan que Dieu avait, et selon ce que Jésus avait fait. Parce que finalement, Paul, il était là, il annonçait simplement l'évangile. Il annonçait la grâce. Sauf qu'il y en a qui répandaient d'autres idées. D'accord ? C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de connaître la Bible. Mais comment on fait ? On doit la lire. Il n'y a pas 36 secrets. Alors, continuons. On va prendre le point suivant directement. Donc le point suivant, c'est les nerfs qui représentent l'obéissance. Quand on regarde les os qui se sont rapprochés dans la vision, hein, on voit après, ils disent, voilà, les nerfs recouvrent, puis après la chair, etc. Donc les nerfs. Pourquoi je dis en fait que les nerfs représentent l'obéissance ? Parce que quand on regarde dans le corps humain, en fait, les nerfs, ils servent à quoi ? Est-ce que vous savez à quoi ils servent, les nerfs ? Delphine ? Mais et ces informations, c'est qui les donne ? C'est le cerveau, donc c'est la tête. Donc, si la tête représente Christ et que les nerfs sont là pour transmettre l'information, ben c'est pour appeler le corps commandé par la tête à bien obéir. Si la tête dit au bras d'aller à droite et qu'en fait il va à gauche, vous comprenez que là ça va être un petit peu compliqué pour la tête de commander et de se dire bah, là j'ai envie de faire ci ou j'ai envie de faire ça. C'est facile à comprendre pour un corps. Pourtant, nous, dans notre manière de faire, est-ce qu'on est obéissant par rapport à ce que Dieu dit? Ça aussi, c'est une autre question qu'on doit chacun se poser. Et peut-être dans notre vie, il y a des choses qui sont difficiles parfois, mais on a juste parfois revenir à la Bible, revenir à la parole de Dieu et simplement s'y soumettre. Lorsqu'on choisit de suivre Christ, parce que je crois que Christ nous transforme et je crois que Christ nous apporte énormément de choses qui nous permettent non seulement d'avoir cette assurance du salut, mais aussi de nous développer, de ne plus regarder en arrière face à nos blessures passées, mais de se tourner vers l'avant et de courir vers le but en étant heureux, en étant en pleine expression de notre potentiel que Dieu a mis en nous. Donc, pour ça, on a forcément besoin de revenir à la parole de Dieu et revenir à l'obéissance. Un petit schéma là, juste à côté. Regardez, voyez tous les nerfs en fait qui vont dans tout le corps et qui commandent l'ensemble du corps. Ça peut être le corps, il est quand même vachement bien fait. Hein. Quand on regarde les os, comment c'est fait, on regarde le corps, comment la tête peut diriger l'ensemble. Comment c'est fait, c'est super bien structuré, c'est merveilleux. Quand Dieu dit l'homme est une créature merveilleuse, ouais, effectivement, il y a de quoi être fier de ça et de s'émerveiller face à ça. Alors, on regarde ensemble le troisième point. Vas-y, passe. Le troisième point, c'est le sang. La chair, donc là on parlait de la chair qui recouvrait les nerfs, qui représente en fait l'amour. Pourquoi? En fait, quand on regarde ce que ça représente le sang dans la Bible ça représente la vie. Mais la vie, si elle est donnée, le sang il est versé, la vie en fait ça peut devenir un sacrifice. Et ça représente aussi ce que Jésus-Christ lui a fait, c'est ce sacrifice en fait qu'il a choisi de faire pour chacun d'entre nous. Et le fait que Christ soit mort pour nous et qu'il ait versé son sang, c'est ça qui nous donne le salut. Ça, vous le savez pour la plupart, mais est-ce qu'on est bien dans cette démarche et est-ce qu'on l'on vit pleinement ce que le Dieu a fait pour nous? Est-ce que dans notre vie quotidienne, on le vit pleinement? Si Christ nous a donné son amour, c'est non seulement pour que l'on soit bien dans notre identité, mais aussi pour qu'on puisse aimer, s'aimer les uns les autres. Et pour ça, c'est pour ça que l'ensemble du corps est recouvert de chair, est recouvert de cet ensemble-là, qui permet d'avoir quelque chose de cohérent. Vous imaginez un squelette avec des nerfs qui se baladent? C'est un petit peu compliqué, hein. J'arrête de vous faire imaginer, il y en a, je vois, ça dégoûte un peu. Mais remarquez que quand vous êtes appelé, parce que c'est ce que vous êtes appelé à faire, si vous êtes appelé à vous aimer les uns les autres, mais c'est pas forcément facile. Et du fait que c'est pas forcément facile, ben parfois on veut faire les choses par nos propres forces. Et puis comme c'est difficile, ben on n'y arrive pas. Et comme on n'y arrive pas, ben on abandonne. Et si on abandonne, ben en fait on n'obéit plus à Dieu, et alors que Dieu nous appelle à vivre ça. D'accord? Et comment on fait alors? Si on n'y arrive pas, comment on fait? Voilà, question piège. Comment on fait?
On revient vers lui.
Ouais. On vient vers lui, tout simplement. Quand il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, moi il y a plein de choses que des fois j'arrive pas à faire. J'ai envie de changer mon caractère, mais j'y arrive pas. Ah ouais. J'aimerais bien. Hein. Ah, il y a des trucs, je sais, moi je suis pas patient. Ça c'est un truc. Avec moi, la patience, c'est pas gagné. Mais, alors, des fois, j'essaie de faire par mes propres forces, et puis là, je me prends un mur, un bon mur, hein, en plus. Hein. Généralement, il y a le truc qui... Il y a un bon panneau, là, je tombe bien dans le panneau, et puis ça fait mal. Et puis j'y arrive pas. Et puis je m'énerve de moi-même. Et je suis même impatient avec moi-même à cause de ça. Parce que ouais, dans le cas d'être impatient, si je suis impatient avec les autres, j'arrive à l'être aussi avec moi. Ça, je suis plutôt doué aussi pour ça. Et vous savez, bah, tant que je vais pas vers Dieu, il n'y a rien qui se passe. Et c'est ça qu'on est appelé à vivre. C'est de venir vers Dieu à chaque fois qu'on a des choses là, qui sont là, qui peuvent être lourdes. On est appelé à nous approcher de Dieu. Ça peut paraître tellement bête à dire, mais est-ce qu'on le fait? Est-ce que concrètement, quand ça va pas, on le fait? Et c'est ça, d'ailleurs. Parce que, moi, je sais pas pour vous, bon, moi, je vais vous parler un petit peu de moi. Quand je vais pas bien, j'ai vraiment pas envie de m'approcher de Dieu. C'est le moment où j'ai pas envie. C'est fou, hein. C'est le moment où j'en aurais le plus besoin, et c'est le moment où je... Non, rien. Rien du tout. Ça vous fait la même chose, vous?
Pareil, hein. Ben c'est là justement où les uns les autres, parce qu'on est liés par cet amour, parce qu'on a tous reçu ça, si on fait chacun partie du corps, si par exemple ma main elle va mal, ben c'est peut-être à mon avant-bras aussi de s'en occuper et de venir, voilà, ben, il faut se soigner, ben ok, je vais l'amener la main là où elle va pas bien. C'est ça aussi qu'on est appelé à vivre. Alors si on n'arrive pas à s'approcher de Dieu, on est là pour s'encourager les uns les autres. Et puis c'est surtout qu'on peut prier aussi les uns pour les autres, parce que c'est pas parce que l'autre, la personne va venir et va lui tendre la main qu'elle va forcément s'en sortir. Il y a une première phase qui est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on est aussi appelé à faire? C'est prier pour la personne et la porter devant Dieu, que la personne vienne devant Dieu. C'est ça. Vous avez bien compris l'idée? Donc là, les trois étapes, hein. Un petit rappel sur les trois étapes. Donc, on a les os. Les os qui représentent la parole de Dieu, la vérité. Donc, bien structuré, le squelette, il est là, il peut se former. Mais le squelette, il a besoin de quoi? D'être recouvert de nerfs pour pouvoir obéir à la tête. Et puis, une fois qu'il y a les nerfs et tout ça, parce qu'on a envie que ce soit quelque chose qui fasse pas trop moche, on recouvre de chair. D'accord? Et la chair représente l'amour. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est ces trois clés-là. On a besoin d'être structuré, de revenir à la parole de Dieu, de lire la Bible. On a besoin de cette relation avec Dieu, parce que si on n'écoute pas Dieu qui nous commande quelque chose, on va faire n'importe quoi. Et ça, c'est par la prière. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'autre aussi? On a besoin d'être lié par cet amour. Et c'est ça qui nous permet de nous développer les uns avec les autres d'une part, mais aussi rien que dans notre relation personnelle avec Dieu. D'accord? C'est ça l'image. Si on priera d'ailleurs, je pense, tout à l'heure pour ça, s'il y a des besoins en particulier, parce que je sens que c'est important. Je crois qu'en fait, dans le groupe, il y en a qui sont avec des os qui sont desséchés, des os qui sont là, qui sont ça va pas. Et je crois que c'est important qu'on se soutienne les uns les autres. Et on prendra un temps tout à l'heure pour ça. Mais je vais poursuivre mon message d'abord. On va continuer sur une église, sur ce que l'on est appelé à vivre. Alors, tu as passé pas mal de... Encore. Donc ça, c'était une petite image, une représentation. Ouais, voilà. Alors, ce qu'on va voir, le deuxième point qu'on va voir, c'est que le corps du Christ est appelé à être une église de disciples vivant dans l'unité. Alors, si vous croyez que simplement parce que vous avez choisi de vous faire baptiser, tout va bien, en fait, c'est pas ce que Dieu recommande pour l'homme. Parce que l'homme est non seulement appelé à recevoir cette vie et cette identité en Christ d'être sauvé, mais il est appelé aussi à être un disciple et pas chauffer une chaise. Ça, c'est pas possible. Pourtant, on est doué, hein. Franchement, moi le premier, hein, c'est plus facile de rester chauffer une chaise plutôt que de se bouger parfois. Mais en même temps, c'est ça qui nous permet d'avancer. Donc on va voir ce que c'est qu'une vie de disciple. Et puis, ce que c'est qu'une église unie. En fait, si on regarde tout ça, sans l'Esprit de Dieu, on peut rien faire. C'est impossible. Et on va le lire là juste après. Mais vous savez, on a vraiment besoin de savoir ce que c'est qu'être un disciple. Alors c'est pour ça que je vous invite à reprendre les messages qu'on a fait au début de l'année, si vous n'étiez pas là ou si vous ne vous en souvenez plus. Reprenez les messages du début de l'année là qu'on a fait sur les disciples. À toi de le vivre. Être disciple aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? On avait basé en fait notre réflexion aussi sur 5 points différents, sur les deux grands commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis la mission de l'Église. Allez par toute la terre, faites des disciples, baptisez-les et enseignez-leur. Ça nous donne 5 points essentiels pour vivre notre vie de disciple. Et ça, si vous en souvenez plus ou si vous n'étiez pas là, je vous invite à revenir à ces messages-là. Je vais pas pouvoir m'y attarder plus longtemps pour ça, mais moi j'aimerais qu'on regarde un petit point sur quelques versets là que Paul exprime aux Éphésiens sur ce que c'est qu'une vie de disciple. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous le conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, mis à part ça, hein, ces deux groupements de mots que j'ai soulignés, est-ce que vous voyez un lien là entre les quatre adjectifs là que j'ai, les quatre noms que j'ai soulignés? Ça représente quoi ça? Ça vous fait penser à quoi? Alors là, j'ai posé une colle. C'est quoi ça? C'est Jésus? Ouais, c'est Jésus. Alors, mais il y a un autre. Jésus avait ces qualités-là. Mais qu'est-ce qui en lui faisait qu'il avait ces qualités-là? Alors là, ça c'est. Là, je vous ai bien aidé. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte des dons, des cadeaux. C'est des dons qu'il nous fait, ok. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Le fruit de l'esprit. Bah oui, quand vous regardez Galates, ce que présente Paul, il parle des éléments du fruit de l'esprit et il y en a 9. Il présente l'amour, la joie, la paix, il va y avoir la douceur, la patience. Il y a quoi d'autre déjà? Il y a la tempérance. Ouais, ça c'est la maîtrise de soi, ce qu'on... Vous connaissez les autres? Les éléments du fruit de l'esprit. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on est appelé à développer? Ouais, c'est écrit là. Tout ça, c'est écrit là. Il y en a 4 qui sont écrits, mais il en manque 5 autres. J'ai donné la joie déjà. Alors ça fait 5. Il m'en faut encore 4. Oh, alors là. Ok. Bon, je vais vous le dire parce que j'ai l'impression que... Vous en souvenez plus? Il y a aussi la bonté, la bienveillance, la foi, et puis la maîtrise de soi, la tempérance. D'accord? Ok? Donc il y en a 9. Et ces 9 points-là, on est appelé à les développer, mais c'est pas nous qui le faisons, c'est le Saint-Esprit en nous qui le développe. Et un petit rappel, il y en a qui disent les fruits de l'esprit. Non, c'est pas les, c'est le. Il y en a un seul. Il y en a un seul parce qu'il y a un seul esprit. Mais l'esprit développe toutes ces caractéristiques-là en nous. D'accord? Et c'est tout ce qu'on est appelé à développer. Donc, voici ce qu'on est appelé à développer en tant que disciple. Alors moi déjà, je suis hors jeu. Je vous le dis, je suis hors jeu. Par contre, le reste, sondons-nous chacun les uns les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous sentez doux? Est-ce que vous vous sentez patient? Est-ce que vous vous sentez dans l'amour? Dans la paix? Dans la joie? Dans l'humilité? Non, ça c'est une bonne question hein, à se poser à chacun. On est appelé à se laisser sonder par Dieu pour savoir si justement ce fruit de l'esprit il se développe en nous. Et c'est ça la vie de disciple qu'on est appelé à vivre. Et si on ne développe pas cette vie de disciples, eh ben, on va pas vivre justement l'unité de l'esprit. Alors, juste une petite remarque là, avant de poursuivre. Je sais pas si vous avez vu, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Ça, c'est Paul qui dit ça. Est-ce qu'on se sent prisonnier dans le Seigneur? On peut pas vivre sans lui, mais parfois on essaye. Est-ce qu'on ça vraiment hein, je voulais c'est pas moi mon idée c'est pas de faire de reproches hein. C'est la Bible, de toute façon, c'est la parole de Dieu qui transmet la vérité et c'est elle qui nous met face, c'est un miroir. C'est un miroir pour nous regarder nous-mêmes. Pas pour nous accabler, mais au contraire pour nous encourager à tendre vers la direction à laquelle Dieu nous appelle. Et au fait d'être disciple et à développer ce fruit de l'esprit et développer tout un tas d'autres choses. D'accord? Donc laissons-nous sonder par rapport à ça. Si on veut porter plus de fruits, moi je vous invite à reprendre le message de Marido sur la vigne. Et là-dessus, je la laisse. On aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard, mais on n'aura pas le temps là ce soir. Ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble là, c'est une église unie. Lisons ensemble ce texte. Maintenant, il n'y a plus des non-juifs et des juifs, des circoncis et des non-circoncis, il n'y a plus des étrangers, des non-civilisés, il n'y a plus des esclaves et des personnes libres, mais il y a le Christ, il est tout et il est en tous. Dieu vous a choisi, il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux et patient. Moi déjà, de toute façon, dès que j'ai lu ces versets-là, tout ça, moi je me suis pris une petite claque. Hein, pour rappeler, je sais pas si ça vous fait la même chose. On lit ça ensemble. Est-ce que je suis comme ça? Ouais, pas trop, pas trop. Quand Paul il exprime ça, en fait, c'est dans l'église de Colosse. Les églises, c'était la même chose à Corinthe, c'était le même principe. Il y avait une diversité de population. Il y avait justement, il y avait des non-juifs, il y avait des juifs, des circoncis, des non-circoncis, des étrangers, des non-civilisés, des esclaves, des personnes libres, il y avait tout ça. Aujourd'hui, on peut être là ensemble et on peut être bien différents sur certains aspects. Pourtant, si on a tous donné notre vie à Dieu et qu'on a choisi de le suivre, on fait partie tous du même corps. Est-ce que vous avez l'impression que parfois on a du mal à accepter certaines personnes du fait de leurs différences? Si on se retrouve face à un SDF qui vient là, il a bien bu, il pue bien, et il vient s'asseoir à côté de vous là. Des fois, comment est-ce qu'on réagirait? Je dis pas qu'on va forcément bien réagir ou qu'on va mal réagir, hein, c'est pas mon point. Mais c'est juste pour nous inviter à réfléchir. Je sais pas, c'est à nous de nous sonder par rapport à ça. Et si on n'est pas sûr, ben c'est peut-être là à nous de demander comment est-ce qu'on peut réagir. S'il y a une autre personne là qui vient, il y a une fille qui est presque totalement dévêtue, là elle arrive et puis elle s'assoit comme ça. Des fois ça va faire bizarre, on va la regarder, on sera peut-être gêné, on rougira peut-être un peu, je sais pas, il y a ça. Posons-nous la question, hein. Si on accepte Christ et qu'on est appelé à nous aimer les uns les autres, même le pouilleux, on est appelé à l'aimer aussi. Hein. Vous savez, moi j'aime bien poser des questions à chaque fois que je lis la Bible. Et moi c'est ce que je vous invite à faire pour vivre cette vie unie. Et on va lire la suite là. C'est un point là qui m'a touché. Qui m'a vraiment interpellé. Il dit, donc c'est simplement la suite, hein, « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. » Alors moi, c'est surtout la première partie. « Supportez-vous les uns les autres. » Bah des fois, c'est plus dur que d'autres. Ça vous fait pas ça? Ouais. Il y a des fois, on se retrouve face à des situations. Purée, c'est mon frère en Christ et ma sœur en Christ. Mais qu'est-ce qu'il est relou! J'ai pas envie là. Alors là, il m'a bien saoulé. Ou alors, parfois même, on se retrouve, on nous a dit des choses méchantes sur nous. Et puis on se retrouve face à ça, on apprend la critique, et puis on fait comment? Bah, des fois, amen. On demande simplement à Dieu de l'aimer, de nous aider, parce que nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Alors je vous invite à réécouter là, les messages qui ont été faits là, les derniers dimanches, notamment celui que David a apporté là, sur le pardon. Le fait de se supporter les uns les autres, parfois c'est pas toujours facile. Hein. Moi je sais qu'il y a des gens, ils m'ont blessé. Et il y a des moments, c'est plus dur que d'autres de pardonner. T'es là, t'as deux moyens de te développer ou d'avancer vis-à-vis de ça. Soit tu restes, tu gardes ça et tu pardonnes, tant pis. Tu vas peut-être même voir l'autre aussi pour régler ça. Soit tu laisses mûrir ça en toi là, et puis c'est un petit peu comme des racines là qui commencent à s'enfoncer dans la terre là, et une fois elles sont bien ancrées là, pour les ressortir, bah t'as pas envie parce que tu sais que si t'arraches, bah t'enlèves plein de terre autour. C'est l'image là d'une plante là qui fait racine, vous retirez, bah je peux vous dire que parfois la terre ça vole en éclats. Et ben nous pareil dans notre cœur, ça peut peut-être voler en éclats si ça a bien fait sa racine parfois. Hein. Je sais pas, moi ça m'est arrivé hein. Je sais que j'avais à un moment donné, j'avais de l'amertume vis-à-vis d'une situation et je comprenais pas, on m'avait dit des choses, c'était faux quoi, et on m'avait critiqué, j'étais vraiment blessé. Ça m'a beaucoup touché et au début, je me suis dit OK, faut que je lui pardonne parce que Dieu me le demande. Et le temps passait et en fait, j'ai remarqué que j'avais pas pardonné. Et ouais, parce que la repentance, c'est pas simplement demander pardon. Ça vous surprend peut-être ? La repentance, c'est pas simplement demander pardon. La repentance, c'est demander pardon, mais aussi changer de direction. Bah oui, on allait dans une direction. Si on demande pardon, c'est une chose. Mais si on continue à aller dans la même direction qu'on était, bah en fait, on n'a pas changé. Et c'est ça la repentance, vraiment. Et c'est ça qu'on est appelé à vivre chacun. Donc on est appelé à se pardonner les uns les autres, même quand c'est parfois dur, même quand on n'est parfois pas d'accord. Et c'est ça en fait, une des notions clés de l'Église. Et le corps, il va pouvoir être uni si quoi ? Si on développe cet amour en nous, si on se supporte les uns les autres. Ça, c'est ça en fait l'amour. Moi, il y a juste un point, avant de poursuivre, qui m'avait interpellé et qui, une clé pour moi qui m'a permis de m'en sortir quand j'avais du mal à pardonner. Cette clé-là, elle est la suivante. Tu n'es pas responsable de ce que tu subis, mais tu seras toujours responsable de comment tu vas réagir. Toujours. Tu peux avoir subi des choses, même horribles, hein. Prenons un exemple concret, qui est peut-être même extrême, mais qui parlera bien. Une personne qui a été abusée en tant qu'enfant, par ses parents par exemple, elle n'est pas responsable de ce qu'elle a subi. Certainement pas. Pourtant, dans sa manière après de vivre par la suite, elle peut être brisée. Il peut y avoir beaucoup de choses qui sont là. Et certainement, il y a beaucoup de choses qui sont là. Mais la personne, ultimement, elle va être responsable de comment elle va réagir. Et je dis pas ça avec méchanceté en disant bah oui t'es responsable, débrouille-toi. Non non non. Mais que on a besoin de se rendre compte qu'on a une part de responsabilité dans la manière dont on réagit parce que sinon on va toujours se porter en victime. Et à partir du moment où on se porte en victime, on n'est plus acteur. Et si on n'est plus acteur, bah on fait plus rien. Bah oui. Et on est tous appelés à être acteurs. On n'est pas appelés à chauffer la chaise. On vient de le dire. On n'est pas appelé à rester dans notre situation. On est appelé à être transformé, à courir. C'est ce que Paul présentait. Hein. On est appelé à faire cette course et à courir, à combattre le bon combat. Ça, c'est ce que Paul nous appelle à vivre. Et dans notre relation avec Christ, c'est ce que nous, on est appelé à vivre. Mais pour ça, ça veut dire qu'il y a forcément, à un moment donné, on se met en mouvement. On devient acteur. Alors peut-être que vous avez subi des choses, peut-être que vous vivez des situations où, alors vous avez peut-être subi, vous avez peut-être fait des choses, hein. C'est pas le point, mais il y a à un moment donné une œuvre de pardon qui doit se faire. Parce qu'une église sans pardon, c'est une église qui est morte. Une église où il n'y a pas de repentance, c'est une église qui est morte. Une église qui n'est pas restaurée, qui reste avec ses eaux desséchées, elle est morte. Elle a beau être recouverte de nerfs, elle a beau être, même après, hein, elle aura beau être recouverte de nerfs, elle aura beau être recouverte de chair, s'il n'y a pas l'esprit, elle est morte. C'est pas moi qui le dis. Moi, je vous dis ça, j'ai vraiment été interpellé quand je lisais ces versets-là, et je crois que c'est vraiment un encouragement que Dieu veut nous donner. Pas de nous laisser face à notre problème, pas de nous laisser face à cette situation qui a pu nous bouleverser, ou le fait qu'on traîne des boulets depuis des années et des années, qu'on n'arrive pas à se sortir, que ce soit lié à des paroles qui ont été prononcées contre nous, que ce soit lié à des dépendances dans lesquelles on peut être, que ce soit lié à des situations familiales qui sont difficiles, ou quoi que ce soit d'autre. Vraiment, mes amis. On n'est pas responsable de ce qu'on subit, mais on va être responsable de comment on va réagir. Ça peut paraître parfois tellement dur, mais vraiment, restez pas avec ce que vous avez subi. Ou restez pas en vous disant je survis. On est trop souvent avec un corps qui boite comme ça. On est là comme ça, on marche tant bien que mal. Puis on se dit ça va aller, la vie va nous porter. Et puis... On espère comme ça continuer à avancer et puis on avance mais en fait on est appelé à courir mais on marche et puis finalement on avance avec Dieu puis on dit bah ouais regarde Seigneur j'avance vers toi je suis dans la course. Ouais mais là c'est un peu compliqué là quand même. C'est un peu compliqué parce qu'on se traîne et on n'est pas appelé à vivre une vie médiocre. On n'est pas appelé à vivre une vie avec des os qui sont desséchés. On n'est pas appelé à vivre une vie avec des blessures qui ne sont pas résorbées. On n'est pas appelé à vivre une vie sans le Saint-Esprit. On ne peut pas être passif face à ça. On ne peut pas. Et aujourd'hui, je crois vraiment qu'on a besoin de que la parole de Christ habite en nous. Si tu veux bien... C'est d'ailleurs ce verset-là. Que la parole de Christ habite parmi vous, avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils, avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. C'est ce qu'on est appelé à vivre. Vous savez, moi ce que je veux vous donner là, c'est des conseils, des enseignements. Mais c'est dans notre vie quotidienne, parfois c'est, on se croise pas forcément à chaque fois, mais on est appelé à prendre soin des uns des autres. Alors on n'est pas appelé parfois à... vous me prenez pas dans ce que je veux dire. Je veux pas dire que... Demain, vous tous, vous allez vous proclamer pasteur ou vous proclamer enseignant et vous allez faire l'enseignement et tout ça. C'est pas ce que je veux dire. Mon point, par contre, c'est qu'on est tous appelés à être disciples. Et les disciples, ils sont appelés à s'aimer les uns les autres. Et parfois, ça implique de se donner des conseils. Avec la sagesse qu'on a, on fait le mieux qu'on peut, mais on est appelé à donner des conseils. Et si on n'y arrive pas, on peut recommander à d'autres personnes. Ce qu'on est appelé à faire en tout temps, c'est remercier Dieu. Vous savez, hein, quand on chante ces chants de louange, moi des fois je me dis, en tant que musicien, parfois conducteur de louange, je vois parfois j'en vois, ils sont assis, ils sont avec leur téléphone portable, ils sont là comme ça, l'image elle est là, vous êtes assis, un peu avachi comme ça, et puis vous avez le téléphone portable, et puis vous attendez que ça passe, il y a la louange, on est habitué à chanter les chants, on va le chanter un petit peu, une fois suivante, et puis voilà quoi. Mon point, c'est pas de faire un reproche à qui que ce soit hein, qui sort son portable pendant la louange, même si je sais qu'il y en a qui le font, mais c'est à chacun de vous examiner après. Mais mon point, c'est de vous encourager à ne pas vivre une vie en mode survie. Vous êtes appelés à vivre une vie pleine avec Christ. Quand on est là à la réunion de jeunes, vivons cette vie pleinement avec Christ. Ne la vivons pas à moitié avec notre portable, avec notre ami là qui est à je sais pas où, et avec Dieu là parce qu'on se dit qu'on est multitâche. Ça, j'ai déjà entendu ça. J'étais surpris. On est multitâche, du coup, tu peux te permettre de envoyer un SMS en même temps que tu loues Dieu. Mais en fait, c'est juste pas le moment. On est juste appelé à être consacré à Dieu, à le remercier de tout votre cœur. En chantant des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint, à chaque fois en remerciant Dieu, c'est ça qu'on est appelé à vivre. Et ça, c'est pas simplement parce qu'on est ici à la réunion de jeunes où on est le dimanche matin au culte. Non, c'est à chaque instant. Laissons-nous parfois nous examiner par Dieu. Est-ce que parfois on passe pas trop de temps sur certaines choses qui nous qui font que ben on se dit ouais tiens je vais lire ma Bible et puis tu lis. Je dis pas hein, que c'est pas la bonne méthode ou quoi, hein, mais tu lis ta Bible. Je crois que Dieu, à ce moment-là, il a envie de te parler aussi. Tu lis ta Bible, puis là, tu reçois un SMS. Clac, tu reprends. Tu réponds. Toc, 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 toc. Ok, tu reposes. Ok, j'en étais où? Ok, je continue. Toc, toc, toc. Ah, un autre SMS, une réponse. Je sais pas comment vous faites, hein, mais je pense que c'est un petit peu plus compliqué de vraiment se concentrer et se laisser imprégner par ce que le Saint-Esprit veut dire si jamais ben, vous faites deux choses en même temps. Ou alors vous faites peut-être plus simple, vous ouvrez même pas votre Bible. Mais là justement, c'est le moment, c'est pas pour vous faire le reproche, mais c'est pour vous inviter au contraire à ne pas vivre votre vie chrétienne au rabais. Parce que sinon, si on vit notre vie chrétienne au rabais, en fait, on est religieux. Tu viens là, tu t'assois, tu chauffes la chaise, mais t'es religieux parce qu'en fait, tu vis pas ce que Christ t'a appelé à vivre. Alors là, un petit mot-clé religieux, si vous voulez vous rappeler ce que c'est, vous reprenez les messages avant. Bah ouais, parce que là, depuis le début de l'année, on fait quelque chose de progressif, parce qu'on sent dans notre cœur, tous les leaders, que c'est important que vous grandissiez avec Dieu, que vous choisissiez de le suivre, et vous lâchiez parfois certaines choses, vous soyez libre de certains fardeaux qui sont là, qui traînent depuis des années et des années, et on est là, mais... Oh là là. J'ai des moments comme ça que je prie pour certains jeunes. Des fois, j'apprends des situations. Je prie pour certains jeunes. J'en pleure, quoi. J'en pleure. Vous savez, parfois, c'est dur. On est là, on veut vous soutenir et tout, et... Vivez pas votre vie de manière médiocre. Soyez pas là comme des eaux desséchées, quoi. Non, vivez pas ça. Je vous en prie. Vivez pas ça. Ok. Excusez-moi. En fait, alors que la parole de Dieu est annoncée, c'est ça qu'on est appelé à vivre. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu est Père de tous, il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. En fait, cette parole-là, elle doit faire effet en nous. De vraiment rester unis. Cette parole-là, c'est aussi ce résumé de tout ce qui a pu être dit. Ce qu'on est appelé à vivre, c'est être unis. On est appelé à se soutenir les uns les autres. Faut qu'on arrête de se battre de nos propres forces. Faut qu'on arrête de faire les choses de notre côté et de se dire on va survivre. Faut qu'on arrête ça. Et ce qu'on est appelé vraiment, c'est à chacun être partie prenante de ce que Christ a fait à travers son Église. Vous savez, au début du message, je vous ai parlé que on pouvait chacun se spécialiser dans les groupes avec les sociologues, les scientifiques qui parlaient que les groupes ils fonctionnaient avec comme un corps en se spécialisant parfois. Et c'est ce qu'on est appelé aussi à faire. Et c'est pour ça que on va lire là ces derniers versets ensemble. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Pourquoi? Là, il décrit en fait cinq ministères. Il y a d'autres références dans la parole de Dieu qui décrivent plein d'autres ministères. C'est pas parce que t'es pas pasteur, que t'es pas prophète, que t'es pas évangéliste ou apôtre ou enseignant que tu peux rien faire dans l'église. Là, c'est vraiment un exemple. Et tout ça, c'est pourquoi il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Avant de continuer, je vais peut-être expliquer parce que ça peut paraître un peu compliqué. Pour former les saints c'est nous, aux tâches du service, donc à pouvoir servir dans l'Église, à l'édification du corps de Christ. Comme je vous l'ai présenté, le corps de Christ, il est appelé à grandir, à croître. Comme un bébé, on n'est pas appelé à avoir une tête d'adulte et un corps d'enfant. Donc on est appelé à grandir. Mais comment on grandit? Par quels moyens on va y arriver? Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ça, c'est notre objectif. C'est là où on doit arriver. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Un corps, s'il y a une tête qui est bien formée d'adulte, un corps qui est là, qui est solide, quand il tient quelque chose et qu'il a quelque chose à faire et qu'il veut sauver une vie, il est là, il le lâche pas et il prend soin de lui jusqu'à temps qu'il soit sauvé, que la personne soit sauvée et plus que ça, qu'elle devienne un disciple. Et c'est ça en fait ce qu'est appelé à être l'Église. Ouais, on continue. Si, c'était bien. Et voilà ce que nous deviendrons. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans la manœuvre d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Cette partie-là, elle décrit que voilà, on n'est pas appelé à être des enfants et que on saura alors qu'on se développera avec Christ quand ce sera la vérité et quand ce sera n'importe quoi ce qu'on nous racontera. On est appelé à vraiment mesurer ce que l'on lit, ce que l'on entend chaque jour, ce que je vous présente là, même moi, même si on peut être là, on peut se dire on se fait confiance, ce que je vous raconte c'est pas des cracks, mais ce que la Bible nous recommande c'est chacun d'étudier nous-mêmes, de discerner ce que chacun enseigne pour pouvoir avancer avec Christ. Donc là en fait ça reprend la suite, là, ce que je vous ai lu à la fin, ça reprend simplement cette image là de la vision d'Ézéchiel 37. Avec les ossements desséchés, ils sont là, les articulations, elles sont bien, chacun à sa place. Et là où on est appelé, c'est voilà, que il y a une croissance, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Je vous le dis tout de suite, c'est pas les leaders qui forment tout le corps. Et c'est pas parce que il y a les leaders qui font, qui essayent de bouger les choses et qui s'activent, que du coup le corps il va bien. Non. Désolé, vous ne pourrez pas chauffer votre chaise. C'est plus possible. Vous êtes obligé de rentrer en action. Et parce que vous allez rentrer en action, qu'est-ce que ça va faire? Croissance. Parce que chaque activité, chaque chose que vous pourrez faire, c'est comme ça que le corps du Christ se met en action et avance et grandit. Mais est-ce que à chaque fois on vient samedi après samedi, peut-être même parfois un samedi sur deux ou un samedi sur trois ou quand on a le temps, quand on n'a pas la flemme ou quand c'est pas trop dur. Mais non, ce qu'on est appelé à vivre, c'est venir. On a besoin régulièrement de s'encourager les uns les autres. Et c'est pas parce que je viens de dire c'est bien de venir qu'il faut venir pour venir. Non, c'est pas ça. Mon point, c'est vraiment de vous encourager à venir pour que l'on puisse grandir ensemble et puis que chacun puisse avoir son activité. Ce que Mathilde et Daniel font là à la vidéoprojection, à s'occuper de ça, à s'occuper des chants, samedi après samedi, c'est précieux. Ce que Luc, Déborah, ce que Victoria, ce que les autres là à l'accueil derrière, quand ils mettent la table et tout, et que vous arrivez, vous êtes content parce que vous avez de quoi manger, vous pouvez boire un coup, c'est bien, c'est chouette, mais c'est pas que eux qui peuvent faire les choses. On est tous appelés à faire certaines choses, plus encore. On tirera notre croissance de ce que chacun fera. Mais si, en fait, il y a le bras gauche là, admettons le bras gauche, c'est celui qui met la table, tout ça, et qui s'occupe de faire tout ça. Et que le bras droit, bah, en fait, il est pas actif. Vous imaginez un bras droit de bébé, là, et puis un bras gauche là, bien, bien formé, petit truc comme ça, hein. Ça va être cool, hein. Ça va être top. Mais c'est pas ce qu'on est appelé à vivre. On est appelé à avoir un bras droit fort et solide qui se développe aussi, mais suivant quoi? Suivant les activités que chacun fait. Donc on n'est pas appelé en fait à rester et encore une fois à chauffer notre chaise. C'est pas possible. Moi ce que je vous invite, parce que là au début là d'Éphésiens 4, là il y avait les 5 dons là. Vous savez, hein, prophète, apôtre, enseignant, évangéliste et puis pasteur. Ça c'était les 5 ministères. Je vous invite à lire 1 Corinthiens 12 et 14. Et puis Romains 12. À chaque fois, c'est des 12, autour de 12. Vous prenez Romains 12, vous reprenez 1 Corinthiens 12, et puis vous lisez. Et vous verrez, ces références-là, c'est là où on exprime les différents dons qu'il peut y avoir dans l'Église. Et qu'est-ce que souvent Paul dit? Aspirez aux dons les meilleurs. Si vous les avez pas encore, si vous exprimez pas votre potentiel, sachez que vous l'avez, ce potentiel-là. Et c'est Dieu qui donne à chacun. Mais si t'aspires à rien, bah t'auras rien. Désolé. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on va grandir. C'est comme ça qu'on va grandir, vraiment. J'ai vraiment à cœur qu'on puisse grandir les uns avec les autres. Et c'est pas en restant dans notre petit confort, avec mais peut-être aussi avec nos blessures. Vous savez, moi, je crois qu'il y a deux points là que j'aimerais vraiment sur lesquels j'aimerais qu'on puisse se focaliser. Et ça va être simplement la fin de mon message. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'être restauré dans certaines choses. On n'est pas appelé à vivre avec ces eaux desséchées là. Et je crois que là, ce soir, vous avez un rendez-vous divin. Et ce rendez-vous-là, le loupez pas. Vraiment, le loupez pas. S'il y a des choses qui, dans votre vie, sont là et vous n'êtes pas restauré pour certaines choses, vous réagissez toujours de la même manière, toujours à boiter comme ça, vous avancez tant bien que mal, mais vous en avez peut-être marre de boiter. Moi, je vous invite vraiment à répondre à cet appel de Dieu. Et si vous y arrivez pas tout seul, c'est pas grave. Parce qu'on est là les uns les autres, on est ensemble. Et on est là pour ça. On se soutient les uns les autres. Si une fois qu'on a prié, il y a des choses qui sont encore là, on est là. On est là les uns avec les autres. N'oubliez pas, si le corps il est uni, si le corps il existe, c'est parce qu'on est chacun dans l'unité. Mais restez pas avec vos difficultés, restez pas avec vos souffrances, restez pas avec vos os desséchés, restez pas avec vos cicatrices là qui sont à vif. Je sais pas ce que chacun a pu vivre, je sais pas ce que chacun peut garder en lui là. Mais non, vraiment, gardez pas ça. Ce que je vais proposer aussi, et c'est ça justement qui doit se développer en nous. Vous avez vu, pour être disciple de Christ, on a besoin de développer le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, il se développe comment? Ben, si le Saint-Esprit est en nous. Donc la première chose dont on a besoin, c'est que le Saint-Esprit vive bien en nous. Parce qu'on a beau être là, se dire « bah ouais, j'aime bien les gens, je fais les choses par mes propres forces », on a beau être suivre le mouvement, être plutôt structuré, organisé, ça va. Si on n'a pas l'esprit, on est mort. C'est ça l'image hein, qu'on avait dans Ézéchiel là, qu'on a lu ensemble. Tant qu'il n'y avait pas le souffle de vie, donc le Saint-Esprit qui était là, c'était mort. Donc moi, ce que je vais vous proposer aussi, et vraiment, je crois que ce soir, ce que j'aimerais ce soir, en fait, c'est qu'on puisse prendre un temps de prière ensemble et que ceux qui veulent, là, ouais, on va faire ça comme ça. ceux qui ont à cœur qu'on prie pour eux, que ce soit pour de la restauration ou pour vivre cette vie par l'esprit, cette vie de l'esprit qu'on est appelé à vivre, c'est-à-dire développer ce fruit de l'esprit d'une part, mais peut-être que justement vous avez déjà le Saint-Esprit, mais vous avez à cœur de développer aussi des dons de l'esprit et que vous savez pas forcément comment vous engager. Peut-être vous êtes déjà restauré, vous êtes sur une passe, vous avez envie d'avancer, mais vous savez pas dans quelle direction avancer, vous savez pas comment servir dans l'église, vous savez pas quoi faire. Ben, demandez, on va prier pour vous que le Saint-Esprit vienne, vous baptise et que vous puissiez commencer à agir. Petite remarque, si tu sais pas quoi faire dans l'église, tant que tu vas pas bouger, il y aura rien qui bougera. Dieu, il a pas appelé des hommes. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a demandé de quitter Charan, là où il était avant. Et tant qu'il n'avait pas fait ce pas-là, il n'y a rien qui s'est passé. Mais à partir du moment où il s'est mis en action, les choses ont commencé à se passer. Vous savez ce que ça veut dire, Charan ? Le lieu du petit fruit. Si vous voulez pas porter de fruits, bah vous bougez pas. Si par contre vous avez à cœur que ça bouge, commencez à vous mettre au service. Comment vous voulez faire ça? Vous allez voir un leader, simplement. Vous lui demandez, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a tellement de trucs à faire, je vous assure, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous pouvez pas vous ennuyer. Donc, ce que je propose, c'est que vis-à-vis du nombre qu'on est, on va faire des groupes. Et ceux qui ont à cœur... Alors, on va faire de manière différente. Pour ceux qui ont à cœur d'être restaurés vraiment dans des choses qui sont là, je crois qu'il y a vraiment besoin qu'on prie aussi pour vous, qu'ils sentent ce besoin-là. Je demanderai aux leaders de venir et que tous ceux qui ont à cœur d'être restaurés sur certaines choses, sans forcément décrire quoi hein, et exactement les détails, mais on va prendre du temps pour prier pour vous. Pour les autres, moi, ce que je vous propose, et je crois que c'est pas parce que c'est un tel qui va prier que vous allez recevoir l'Esprit ou quoi, mais simplement formulez ça. Si vous avez à cœur de recevoir le Saint-Esprit ce soir, si vous avez à cœur de vivre ces dons de l'Esprit ce soir, simplement vous les demandez à Dieu. Vous vous compliquez pas. Vous avez à cœur de recevoir quelque chose, demandez à Dieu. Et les leaders passeront aussi dans les petits groupes qui seront là. On priera aussi pour vous. Et j'ai vraiment à cœur que vous puissiez vivre cette vie qu'on est chacun appelé à vivre. Donc, je vous propose que, voilà, que des petits groupes se constituent, on se répartit dans la salle, simplement, prie les uns pour les autres. S'il y en a qui veulent qu'on prie pour eux, pour des choses qui sont là, qui restent, venez sur le devant. On va faire ça ce soir.